Oui, allô? 1, 2? Ouais, enfin, j'ai pas besoin d'être si fort que ça, mais oui. Merci Seigneur pour l'opportunité, pour la grâce de pouvoir partager ta parole avec ton Église, Seigneur, et merci pour tout ce que tu as mis dans mon cœur. Aide-moi à être fidèle, aide-moi à être fidèle à ta parole, Seigneur, et pour te glorifier, pour que le monde, pour que tout le monde qui sont présents ici, connaissent un peu plus de ce que tu es, Seigneur. Et nous voulons vraiment te rendre gloire pour tout ce que tu as fait dans nos vies à travers la croix, Seigneur. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, amen. Amen. Là maintenant, je peux vous vraiment chiffler un à un. Non, 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 je rigole, hein. Vous savez que j'aime bien rigoler comme ça. Si on donne un titre pour le message que j'allais apporter cet après-midi, c'est sur l'annonce de la venue de Jésus. Donc nous sommes déjà, à première venue en fait, pas le second. Hein. Nous sommes vraiment en pleine saison de Noël et je pense qu'il est indispensable de parler sur ce sujet-là. Et j'ai dans mon cœur de remettre la place de Jésus dans la fête soi-disant commerciale, Noël. Et avant tout, Noël, c'est pas les cadeaux, c'est pas les chants de Maria Carré ou de Michael Bublé. Tout ça, c'est bien. Hein. C'est bien d'être un peu nostalgique, un peu, moi, pas trop. Mais ça nous rappelle nos enfants, notre enfance. Et mais pour les autres, peut-être que c'est tout au contraire. Hein. Ça leur rappelle la solitude, puisque Noël c'est seul, c'est un peu, tu vois, c'est le froid aussi pour les Européens ici. Mais ici, vous êtes bénis puisque il fait chaud. Mais Noël, j'aime utiliser le mot anglais Christmas, puisque là, Christmas, il y a Christ, quoi, par rapport à Noël. Là, on voit le centre, le milieu de cette célébration qui est Christmas, et je vais utiliser ce mot Christmas plutôt que Noël, même si Noël, c'est bien français. Mais dans ce monde qui est séculaire, on n'utilise même plus le mot Noël, le mot Christmas. On dit dans les pays anglophones, joyeuse, happy holidays, joyeuse fête pour les mondes francophones. Et là, on essaie d'enlever Christ dans le centre de cette célébration-là. Mais le mot Christmas doit nous rappeler, bien évidemment, l'incarnation, n'est-ce pas? L'incarnation. Beaucoup d'entre les prophètes de l'Ancien Testament, même tous, je vais dire tous les prophètes de l'Ancien Testament, ont prophétisé sur la venue du Christ. Et même juste après la chute, on peut voir dans Genèse 3:15, Dieu a dit au serpent, je mettrai l'inimitié, entre toi et la femme, entre ta prospérité et sa prospérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Là, il y a déjà la prophétie sur Jésus. Et ça a continué à Abraham, on peut voir ça dans Genèse 22, verset 18. Mais là, Dieu a promis à Abraham un héritier, celui qui va régner. Et Jérémie 33:15, là on est habitué à lire Jérémie 33:3, mais là dans Jérémie 33:15, on nous rappelle, si on peut mettre un peu Jérémie 33, verset 15, je vais lire en attendant. Ah, c'est là. en ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe. Un germe. Dites avec moi, un germe. Un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Il germe. Dans le Bible anglophone et malgache, germe et il sont tous en majuscule. Donc là, on parle de Jésus, celui qui est l'héritier du trône de David. Et je vais en parler un peu plus, mais je vais essayer d'aller un peu plus vite, puisque, soyez patients avec moi, j'ai un peu une longue introduction sur ce que je vais dire. Je vais essayer d'articuler. Mais la naissance de Jésus, d'une vierge aussi, est très très importante. Comme il est prophétisé dans Ésaïe 7, 14, il est dit, « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » La Vierge va être enceinte. Et cela signifie vraiment quelque chose qui est vraiment important dans la vie, dans la foi chrétienne qui est ancrée sur Jésus et qui proclame que Jésus est Dieu, puisque le fait que Jésus est sorti d'une vierge, qu'il est né d'une vierge, veut dire qu'il n'a pas le sang qui est infecté de péché par Adam, mais là il a le sang de son Père éternel, de Dieu, et il est fils de Dieu, fils de Dieu très haut, puissant, il est Dieu. Je ne sais plus où est-ce que je suis là, mais il y a beaucoup de questions qui sont posées sur le fait que Jésus est né d'une vierge. Il y a des tas et des tas de gens qui essaient de nier de ce fait-là. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui s'est passé 2000 ans passés a vraiment impacté la vie des milliards, des millions et des millions de gens. Et même nous qui sommes là, nous sommes là à cause de Jésus. Et nous sommes là à cause de notre foi en Jésus, qu'il est Dieu, qu'il est né d'une vierge. Remercions Dieu, car toutes ces histoires-là sont bien écrites, bien et belles dans notre Bible. Et on va lire Luc chapitre 1, verset 1 jusqu'à 4, pour bien s'imprégner et bien comprendre ce qui est raconté dans ce livre-là. Donc, en fait, ce que j'avais préparé, c'est de prendre des textes, un texte biblique dans le livre de Luc qui va nous expliquer la venue de Jésus en chair. Mais là, nous sommes toujours dans l'introduction. Je vais lire Luc 1, verset 1 jusqu'à 4. Je vais lire au nom de Jésus. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Ils m'ont aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente Théophile, afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Il y a des mots-clés qui sont vraiment évidents là. Récit des événements, témoin oculaire des commencements, devenu ministre de la parole, recherche exacte. Afin que tu connaisses, Théophile, la certitude des enseignements que tu as reçus. Luc est en train de écrire, Luc a écrit cet livre pour Théophile. Et le but de ces écrits est d'affermir la foi de ce Théophile qui paraît être un officier, un homme qui est une personne d'influence, vu la façon qu'il a écrit « excellent Théophile ». Il a pris ce mot « excellent Théophile ». Et quand on utilise ce mot, cette façon d'écrire, c'est qu'on écrit à une personne d'influence, à une personne de haute importance ou à quelqu'un qui est officier dans l'armée. Et il a précisé qu'il a fait des recherches exactes. De quoi nous pouvons être sûrs que ce qu'il nous raconte dans le livre de Luc n'est pas du baratin, n'est pas quelque chose qui est fondé sur, des choses incertaines. Mais vraiment, il a fait des recherches exactes. Et quand on lit le livre, ce livre-là, on doit avoir conscience de ces recherches personnelles, que tout ce qui sont écrits là-dedans sont bien fondés. C'est comme si Luc disait à Théophile, implante ta foi sur ce que nous disons, car c'est de la pure vérité. Et là maintenant, je veux attaquer sur mon texte qui est dans Luc chapitre 1, verset 26 jusqu'à 38. Luc chapitre 1, verset 26 jusqu'à 38. Je vais lire. S'il te plaît, Ange, est-ce que tu peux le lire pour moi?
Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta.
Merci, merci beaucoup, Ange. Est-ce que tu peux passer sur le verset 26, au sixième mois? Pas seulement verset, oui, voilà, au sixième mois, Galilée, la ville de Galilée, appelée Nazareth. Là, c'est de la précision. Là, on parle de précision. C'est pas quelque chose qui est pris de l'air, quoi. C'est daté et c'est situé géographiquement et c'est prouvé. Cela veut dire qu'on peut vraiment faire confiance à ce qui sont écrits là-dedans, dans ce livre-là. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. On a rarement nommé les anges dans la Bible. Mais l'ange Gabriel est mentionné ici. On peut voir deux noms d'anges dans la Bible. Il y a Michaël et il y a Gabriel. Et Gabriel est mentionné trois fois dans la Bible avec Daniel. Quand Daniel a eu un songe, et c'était l'ange Gabriel qui lui a donné l'interprétation de ces songes-là. Et après, il y avait Zacharie, le père de Jean le baptiseur. Et il y a aussi, pour la troisième fois, il y a Marie. Sa mission ici est donc, avec Marie, est d'une haute importance. Et on a mentionné aussi la ville de Nazareth pour voir à quel point notre Jésus Notre Dieu est vraiment humble. Nazareth est une ville ou un village qui n'est pas bien vu par les Juifs, par sa vie de débauche. Il est écrit dans Jean 1, verset 46. Est-ce que tu peux le dire à haute voix? Il n'y a rien de bon à Nazareth. Donc Jésus, il n'est pas venu dans une ville flamboyante comme Paris ou comme Milan ou comme, je sais pas, même Jérusalem. Mais là, on voit l'humilité de Jésus qui est venu dans la place qui est le moindre, qui est vraiment... je ne sais pas si tu arrives à penser à une villa, à un village ou à une ville ici à Madagascar qui est paumée, mais c'est là que Jésus est allé. Et pas seulement qu'il est allé dans cette villa, dans cette ville-là, mais il est né dans une place que personne n'avait pensé. Là, on voit notre Jésus, l'humilité de notre Jésus. Et il est dit aussi, vierge, fiancée par Joseph. Dans le mariage juif, il y a trois étapes. Et Marie et Joseph, et dans la deuxième étape, il y a au premier lieu ce genre de, comment on dit ça, on dit en malgache, savarannantu, c'est entre les parents. Donc c'est juste faire connaissance. Et ça, c'est, il y a une promesse qui sont, des promesses qui sont faites dans cette première étape-là. Et après, on rentre dans le fiancé. Ou la fiancée, je ne sais pas. Hein? Les fiançailles. Voilà, merci. Et là, ces fiancées-là, c'est difficile à rompre, puisque c'est déjà, il y a déjà un engagement. Et un divorce est nécessaire pour rompre le contrat dans ce cas-là. Et Marie et Joseph étaient dans ce deuxième étape de leur mariage. Ils ne vivent pas encore ensemble. Donc c'est sûr qu'il n'y avait pas de sexe dans leur relation. Mais normalement, c'est après un an de cette deuxième étape-là que le mariage est vraiment fait et consommé, bien sûr. Et on a dit aussi le trône de David, son père. Ça, c'est la réalisation de la promesse que Dieu a faite sur David. On peut voir dans les Écritures, je pense que c'est écrit dans Jérémie 33, 15. On venait de lire ce passage-là. Mais là, je vais entamer mon premier point. J'ai 5 points. Mon premier point, c'est Gabriel et Marie, une salutation étonnante, une nouvelle effrayante. Merci. Bon, j'avais pas faux alors. Une salutation étonnante, une nouvelle effrayante. C'est pas donné à tout le monde d'être visité par un ange. Hein. Ceux qui sont visités par les anges, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lever les mains? Personne. C'est pas une chose habituelle à tout le monde. Mais là, l'ange Gabriel a dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Il y a dans une autre version, c'est écrit, l'ange entra chez elle et lui dit, réjouis-toi, toi qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. Ce qu'on peut voir là, c'est l'élection de Dieu, le choix de Dieu. Et l'élection de Dieu ramène toujours une personne vers une vie de grâce. Et ceux qui sont choisis par le Seigneur savent que leur vie est de grâce en grâce. Cette grâce est d'une valeur inestimable. Dans ma vie personnelle, je chéris le choix, l'élection le choix que Dieu a fait sur ma vie, puisque je sais que je ne mérite rien. Déjà, ma vie est vraiment... quand je ne sais pas, quand Dieu sonde ma vie, c'est le cata, hein, total. Mais il m'a choisi. Et c'est son choix. Et c'est par la grâce. Et je pense que Marie, elle est une bonne personne, avec un cœur dévoué à Dieu. Et de ce fait, Dieu l'a choisi pour porter Jésus. Et je pense que ce choix-là, ce n'est pas anodin. Mais ce qui est sûr, c'est que Marie a été une récipiente de la grâce qui a été faite pour elle. Elle est comprise dans Romains 3, 10. Tout le monde ne mérite rien puisque tout le monde a péché. Et Marie fait partie de ce tout le monde-là. Mais Marie a trouvé la grâce du Seigneur. Dieu a accordé sa faveur à Marie. Il est dit, Seigneur, le Seigneur est avec toi. Ça, c'est une assurance et un réconfort pour ce qui attend Marie, puisque être enceinte sans avoir un mari et sans être légalement mariée, c'est quand même une offense dans la culture juive. Donc, sans exception, je clarifie un mythe qui dure jusque maintenant, que Marie est sans péché, que Marie a été restée vierge jusqu'à sa mort. Et c'est toujours prêché dans certaines églises, hein, jusqu'à maintenant, que Marie sans péché, Marie, elle est récipiente de la grâce de Dieu, comme toi et moi. Et ne voyez-vous pas que notre vie aussi, c'est comme ça? Quand Jésus est entré dans nos vies, quand Jésus est né dans nos cœurs, nous sommes devenus vivants. Nous avons reçu le salut par la grâce. Le Seigneur Jésus lui-même nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps, comme l'ange a rassuré Marie, le Seigneur est avec toi. Quelle grâce! Et cette grâce est donnée par Dieu gratuitement. Dieu merci. Et aujourd'hui, cette grâce est encore disponible pour toi et pour moi. Nous pouvons boire et manger sans payer, comme Ésaïe l'a dit. Il est écrit dans Éphésiens 3, 6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Nous sommes ces païens-là. Nous sommes les pas méritants de cette grâce. Et nous sommes comme Marie, nous sommes graciés par Dieu. Dieu nous a donné sa grâce. Mon deuxième point, c'est Jésus, l'héritier du trône de David, qui règne à jamais. Jésus veut dire Dieu sauve. Et en étant comme héritier de David, cela lui donne la légitimité de régner. Quand on pense à la famille royale anglaise, donc maintenant c'est la reine Elisabeth, mais ce qui est le prétendant après la reine Elisabeth, il y a des rangs. Et celui qui est dans le premier rang, c'est celui qui va hériter le trône. Ah, je galère un peu avec les articles. Le trône. Et c'est comme ça, Jésus est le numéro un, l'héritier du trône de David. Et son règne, comme Dieu l'a promis à David, va rester pour éternité. Il est écrit dans Ésaïe 9, versets 5 et 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, et Père éternel, Prince de la paix. Tout ça, ce sont des noms de Jésus. Hein. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. Vous voyez, David est toujours répété. Et c'est pour ça que on ne doit pas zapper de lire Matthieu 1 et Luc chapitre 3. Là, quand on lit ceci a engendré celui-là a engendré celui-là. C'est important de lire cela puisque là, on peut retracer l'ancêtre de Jésus et on peut voir David dans arbre généalogique de Jésus. Mais la règne de Jésus va être pour l'éternité. Et cela nous rassure que notre Jésus règne pour toute éternité. Même si cette vie va être finie, notre Jésus continue à régner. Et cela nous donne de l'espoir que la vie éternelle est sûre en lui. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'il est à la fois notre juge et notre sauveur. Ça, c'est gagné d'avance, quoi. Vous voyez, il est notre juge et notre sauveur. Je m'excuse, mais il faut que... Ouais. On trouve un troisième point. Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Jésus est le fils de Dieu. Jésus est Dieu. Et Marie va donner naissance à Dieu le Fils. Et saint veut dire, parfois quand on pense quelque chose ou quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un qui met de burqa, tu vois, tout est de tête en bas, quoi. C'est, il est saint, elle est sainte puisque elle est bien habillée comme il se doit et on ne voit rien. On ne voit pas de forme et c'est une sainte. Et il y a des gens qui sont vraiment attirés par ça, hein, par cela. Vous voyez, avec la religiosité et tout ça, Mais ça veut dire mis à part pour une mission. Ça veut dire pas commun. Et là, je vais entamer déjà l'essentiel. Nous parlons ici de l'incarnation de Dieu, mais aussi là, on peut parler le fait qu'il est Dieu et qu'il nous permet d'avoir un sacrifice parfait pour nos péchés. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'enseignement de Kim, qui n'est pas l'enseignement de Kim simplement, mais l'enseignement biblique. Donc ce que je veux dire là, c'est d'affirmer qu'il prêche vraiment la Bible, mais il nous a appris que pour le péché d'une personne, peut-être une autre personne peut le remplacer, mais ça ne s'applique pas dans le monde du péché, dans le monde du salut, puisque seul Jésus peut sauver. Et là, on a le sacrifice parfait, Jésus qui est 100% homme et 100% Dieu. En Jean 6, verset 53, il est dit, Jésus leur dit, En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Là, on parle de sang et de chair. C'est comme un vampire, quoi. Mais c'est là l'importance de l'incarnation. C'est déjà le fait qu'il est prêt à donner son sang pour nous racheter. Et ça, c'est vraiment important. Et même si on parle de l'incarnation, on doit parler aussi du sacrifice parfait que Jésus a fait pour nous, puisqu'il est venu pour racheter les fautes de l'humanité. Bon, il faut que je corrige là. Le sang de Jésus peut racheter les fautes de l'humanité entière parce qu'il est Dieu. Il peut. Mais il y a ceux qui résistent. Peut-être que ce sont les... Non, je n'allais pas dire quelque chose. Mon point numéro 4, je vais aller un peu plus vite. C'est la preuve que Dieu va accomplir tout ça. Élisabeth va engendrer le précurseur de Jésus, c'est Jean. Des miracles et des miracles pour la naissance de Jésus. Il y avait Zacharie qui était devenu muet. Un couple qui sont déjà très vieux et qui va engendrer quelqu'un. Ça, c'est un miracle. Et pensez-vous pas que dans notre vie, avec la venue de Jésus dans nos cœurs, des miracles aussi se sont reproduits dans nos vies personnelles pour prouver qu'il est Dieu et pour raffermir notre foi en lui encore plus. Et là, je vais entamer mon dernier point. C'est Marie a répondu avec confiance. Dans notre marche chrétienne, beaucoup sont des choses impensables, tracassantes, inquiétantes. Par exemple, les disciples dans le bateau, il y avait la tempête et c'était la panique totale. La panique avec le deux pains et les cinq poissons, c'est l'inverse, je ne sais plus. Mais pour Marie ici, ce n'est pas évident du tout. Être enceinte sans avoir été mariée. Pour nous qui lisons bien après cette histoire, on pourrait dire, bon, Marie, elle est chanceuse, elle est vraiment honorée d'avoir porté le Fils de Dieu. Mais pour elle qui a vécu cette histoire-là, c'est le déshonneur total. Mais elle a accepté avec confiance, comme il est dit dans le verset 38. « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit soit dit, s'accomplisse pour moi. » Elle a accepté avec confiance. C'est une dure leçon dans l'école de Dieu, avancer avec confiance. Mais nous devons être rassurés, car il est avec nous. L'ange Gabriel l'a rassuré que le Seigneur est avec toi, Marie. Même si cela semble ridicule, difficile, impossible même, dans l'immédiat, peut-être le bon résultat est impensable, mais dans le long terme, Jésus va être glorifié dans ta vie. Peut-être même le don de repentance est inconcevable parce que nous avons cette, pride, fierté, cet orgueil spirituel qu'on va accomplir les choses par nous-mêmes, qu'on va être réconcilié par Dieu. Je m'excuse, qu'on va être réconcilié avec Dieu par nos efforts. Mais là, peut-être que pour toi, c'est ridicule, c'est difficile, c'est impossible même de penser que tu vas être gracié, tu vas recevoir la grâce et tu peux accéder le salut juste par acceptance que Dieu te prend tel que tu es. Peut-être que tu ne te sens pas capable d'avouer tes péchés, c'est difficile, c'est humiliant. Mais en fait, cela doit te rapprocher de Dieu et tu dois répondre avec confiance de son amour. Comme exemple pratique dans nos vies, peut-être que tu es un jeune homme ou une jeune femme, jeune fille. Peut-être les choses impensables, les choses qui sont difficiles même à penser, les choses impossibles pour toi-même d'y penser. C'est que Dieu te demande de bien vivre ta vie avec pureté, comme Marie l'a fait. Même si c'est ta réputation qui est en jeu, puisque maintenant, c'est le monde est à l'envers. Si tu gardes ta pureté, c'est toi qui est pas normal, quoi. Et pour toi, c'est peut-être quelque chose qui est ridicule, difficile, mais c'est ce que Dieu, peut-être que c'est ce que Dieu te demande à vivre ta vie avec pureté. Peut-être que tu es dans le business, Dieu te demande la droiture, la transparence dans tes affaires. Et dans ce monde où la corruption, où toute chose est permise, peut-être que c'est impossible pour toi de faire de business avec transparence, avec droiture. Mais peut-être que c'est cela, l'impossible que Dieu va te demander à faire. Peut-être que toi, tu es un époux ou une épouse. Dieu te demande ta fidélité à ton époux, à ton épouse. Mais tout cela ne peut être fait que seulement par la grâce de Dieu. Et demandons la grâce pour qu'enfin on peut dire comme Marie, je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que nous savons que tu es le centre de tout, Seigneur, de cet univers, de nos vies, de cette église, de cette saison que nous vivons là en ce moment, saison de Christmas. Merci Seigneur pour le don de Jésus qui est vraiment précieux pour nous, qui nous a enlevés du royaume des ténèbres et qui nous a mis dans le royaume de la lumière. Merci Jésus pour ton humilité. Merci pour tout ce que tu es dans nos vies, Seigneur. Que ton nom soit glorifié et aide-nous, Seigneur. Aide-nous à vivre avec confiance. Aide-nous à te faire confiance, même si cela semble difficile, si cela semble impossible, même si cela semble humiliant, même si cela semble vraiment impensable de vivre tout cela. Et donne-nous la grâce de le vivre en ton nom, Saint Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté. Dieu vous bénisse.
Merci tous. Hein. Je ne sais pas mais si vous avez bien écouté le message, mais j'ai vraiment savouré tout ce qu'il a dit. Hein. Vraiment, merci beaucoup tous. Et une petite annonce, vous savez, on a un petit goûter là qu'on a besoin de finir tout à l'heure. Et là, je ne sais pas si le café est encore chaud.